Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À défaut d'être simple à mettre en place, les règles du CSA en période électorale ont le mérite d'être claires. Les médias audiovisuels sont tenus de respecter une équité de temps d'antenne et de parole entre les candidats et leurs soutiens, puis de stricte égalité dans la quinzaine qui précède l'élection. Oui, mais ce que ne dit pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est comment traiter celui qu'on présente communément comme le premier parti de France, celui de l'abstention. Les abstentionnistes sont nombreux, un électeur sur cinq lors de la dernière présidentielle, deux sur cinq pour les législatives qui avaient suivi. Il y aurait donc une logique à comptabiliser la parole de ceux qui appellent à ne pas voter au printemps prochain. Sauf qu'en France, s'abstenir n'est généralement pas considéré comme un acte politique, ce serait même plutôt le contraire, le signe d'un repli sur soi, d'un désintérêt pour la chose publique. Ici et là pourtant, certains appellent à faire de leur non-vote un acte profondément politique. Un appel à boycotter l'élection présidentielle a par exemple été lancé avec pour objectif de changer de régime institutionnel. Alors peut-on politiser l'abstention ? C'est la question que nous posons ce soir à trois des membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet de consultants Footprint Consultant. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur à France Culture, la suite dans les idées tous les samedis à 13h30. Et ce soir, un quatrième membre provisoire de ce club, nous vous avons invité. Antoine Payon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter à La Croix et vous venez de publier « Voter, c'est abdiquer » aux éditions Don Quichotte.
Au cours du quinquennat qui est en train de se finir, nous avons voté tous les ans en France. Et tous les ans, les élections concernées, municipales, régionales, etc., ont été l'occasion de records absolus de l'abstention.
La seule solution, c'est l'abstention, puisqu'il n'y a que ça qui va, au sort d'élection, nous dire qu'il y a un problème. Et pas envie de voter pour l'extrême, c'est dangereux.
23 avril et 7 mai, ce sont les dates de la présidentielle 2017. Cela veut dire que le deuxième tour aura lieu pendant un pont, le fameux pont du 8 mai. Nombre d'électeurs risquent de faire le pont et de ne pas voter pour le second tour. On risque d'avoir une très très forte abstention. S'il y a en plus beaucoup de bulletins blancs et nuls, la légitimité du président élu le 7 mai 2017 sera peut-être écornée alors que son mandat commencera à peine.
Alors fustiger l'abstention peut ressembler à une sorte de leçon de morale civique, malvenue, après tout, le vote n'est pas obligatoire. En fait, c'est plutôt une leçon de mécanique des fluides. L'abstentionniste croit ne pas participer au vote, mais en réalité, il participe à l'affaiblissement de son camp habituel et au renforcement de celui pour lequel il ne vote jamais.
Voilà, petit tour d'horizon de certains commentaires qui peuvent être faits au fil des différentes élections autour de l'abstention. Premier tour de table assez bref, si vous le voulez bien. Je voudrais juste savoir si parmi vous, il y a des abstentionnistes, soit des abstentionnistes absolument radicaux au sens où ils s'abstiendraient systématiquement lors des élections, ou bien des abstentionnistes occasionnels. Je vais commencer peut-être par celle qui a eu le moins d'occasions de s'abstenir, parce que vous êtes la plus jeune ici ce soir, Anastasia Colosimo. Vous avez déjà voté, vous êtes déjà abstenu, vous avez fait les deux.
Alors j'ai déjà voté, mais la première fois que j'ai voté, c'était assez récemment parce que avant je considérais que je n'avais pas de connaissances suffisantes pour voter. Je savais pas, je considérais que sur tous les enjeux politiques qui étaient en question au moment des élections, j'avais pas de connaissances suffisantes pour m'exprimer.
Sylvain Bourmeau, il vous est arrivé de vous abstenir?
Non, jamais. J'ai toujours voté dès qu'il m'en a été donné l'occasion. Et je dirais même que je vote plus souvent désormais, puisqu'il y a des primaires et que ma philosophie concernant le vote consiste à m'emparer de tous les bulletins de vote qui se présentent devant moi. Donc j'ai voté aux élections primaires autant que j'ai pu. Et si d'aventure je n'avais pas envie de voter pour l'un des candidats qui se présente, alors je voterai blanc.
Est-ce que vous partagez cette philosophie, Philippe Manière?
Oui, moi je me suis très rarement abstenu. Je considère qu'il y a une espèce de devoir, évidemment pas légal, puisqu'effectivement la France ne fait pas partie des quelques pays où le vote est obligatoire, mais il y a une sorte de devoir moral d'exprimer son suffrage quand vous êtes invité au nom de tous ceux qui sont morts pour qu'on puisse le faire dans le passé, et au nom de tous ceux qui aimeraient bien pouvoir le faire aujourd'hui et qui vivent dans des pays où c'est pas possible. Alors il m'est arrivé de m'abstenir, parfois pour raison de commodité, pourquoi ne pas le confesser, de temps en temps vous n'êtes pas là, ça vous arrange pas, c'est arrivé rarement mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé surtout d'aller voter blanc, rarement également, mais ça m'est arrivé quand il y a un choix binaire et qu'aucun des deux me convient. Je pense que quand il y a un choix de 7, 8, 10 candidats, c'est quand même assez culotté de dire que rien vous convient. Quand il y a un choix binaire, oui ou non pour un référendum, ou bien alors deuxième tour d'une présidentielle typiquement, et que il n'y en a vraiment aucun des deux qui vous semble correspondre à votre vision du monde, ce n'est pas illégitime d'aller voter blanc. S'abstenir, je trouve que voilà, ce n'est pas compatible avec l'idée que je me fais de mon devoir moral de voter puisque j'en ai le droit.
Alors si je vous ai bien lu, Antoine Peillon, jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à récemment, c'est une idée que vous partagiez, c'est-à-dire l'idée de, que le vote est un devoir civique et vous étiez plutôt un électeur assidu. Et puis vous racontez dans le livre qu'il y a eu les régionales de 2015, il y a eu un déclic chez vous qui vous a fait devenir un abstentionniste. Radical, comme je le disais au début de l'émission, c'est-à-dire vous avez décidé de ne plus participer au jeu électoral.
Alors on va voir, parce que la première fois, ce sera là en avril et mai prochain, on va voir si mon surmoi domine ma pulsion ou dans le sens inverse, peu importe. Je vais expérimenter pour la première fois de ma vie le fait d'être un abstentionniste, puisque moi, pas comme Monsieur Manière, j'ai vraiment voté depuis au moins 1980 à toutes les élections. Même quand j'avais des problèmes de commodité, je m'arrangeais pour que le vote passe avant ma commodité.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette expérimentation de l'abstention ?
C'est une sorte de... Le Saint-Esprit a dû descendre dans mon esprit à moi. C'était une sorte de révélation qu'il y avait une absurdité totale à aller mettre un bulletin de vote qui, pour moi, était obligatoire, qui était celui du parti au sens large du terme pour lequel je me suis toujours mobilisé, pas seulement lors des élections, puisque je connaissais les noms bien entendu qui étaient sur ce bulletin et que je les connaissais par ailleurs par mes activités professionnelles comme étant des gens particulièrement corrompus. Et donc tout d'un coup j'ai eu un sentiment d'absurdité, voire une nausée qui m'a saisi, un peu comme la nausée de Sartre, une sorte de vertige, et je n'ai pas pu faire autre chose. J'ai été voté, j'ai déchiré le bulletin de vote, donc c'était un vote nul, c'était pas une abstention. À partir de là, sur ce choc un peu intime, j'ai réfléchi, j'ai lu, et c'est vrai qu'en transgressant beaucoup de ce qu'avait été mon éducation, ma culture même, parce que j'ai la prétention d'avoir une culture personnelle au-delà de mon éducation, eh bien j'ai découvert tout un continent intellectuel, un continent de philosophie politique qui me disait, mais non, on n'est pas mort pour les élections, contrairement à ce que disait Monsieur Manière, on est mort pour bien autre chose. On est mort, et dans ma famille d'ailleurs, on est pas mal mort pour des causes qui étaient des causes démocratiques. On est mort pour la liberté, on est mort pour l'égalité, pour la fraternité. Et le vote était quelque chose d'annexe, même si j'ai l'orgueil d'avoir une grand-mère qui a été parmi les grandes militantes du vote féminin. Pour autant, elle n'a jamais mythifié ce petit acte démocratique qui est une sorte de goutte d'eau dans un vase qui doit comprendre beaucoup d'autres eaux de l'action citoyenne. Donc j'ai eu toute cette réflexion et j'en suis arrivé à me dire que aujourd'hui on est dans un système tellement pourri, pour employer un très très gros mot, que finalement l'abstention était le vote qui allait porter le plus de contestation de ce système.
Alors qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres, Sylvain Bourmeau? Puisque vous avez tous eu le livre d'Antoine Peillon en main, donc voilà, vous connaissez... Les arguments, vous ne les découvrez pas là.
Oui, il y a un argument qui n'a pas été donné par Antoine Peillon, qui consiste à remarquer, enfin, je dirais, à focaliser son attention et son geste de révolte contre l'élection présidentielle. C'est cette élection monarchique qu'il a en ligne de mire dans son livre. Alors moi, je voudrais mettre les choses tout de suite au clair et au point. Je crois que je l'avoir déjà dit d'ailleurs dans cette émission. Il y a 20 ans exactement, j'ai publié avec un ami, Bastien François, professeur de sciences politiques, une tribune dans Le Monde pour demander la suppression de cette élection. 2 ans plus tard, on participait tous les deux avec 15 autres à la création de la Convention pour la 6e République, dont la suppression de l'élection présidentielle était l'une des mesures...
L'élection présidentielle au suffrage universel direct.
Faut le dire en entier, effectivement. C'est-à-dire telle qu'elle est pratiquée depuis 1965, depuis la réforme de 1962. Et donc, je partage ce constat que cette élection n'est pas une bonne chose. Et tout de suite, on nous répond, mais c'est ce à quoi les Français, les citoyens français sont le plus attachés, cette élection.
C'est vrai que c'est et celle donc, qui draine le plus de participation.
Oui, mais c'est là que je vois un problème. C'est-à-dire que je pense que si l'objectif demeure de supprimer cette élection au suffrage direct, alors ce n'est certainement pas en s'abstenant qu'on y parviendra. C'est-à-dire que je doute profondément de l'efficacité d'une grève électorale, en quelque sorte, pour cette élection. Je pense que la seule manière de parvenir à supprimer cette élection, dont je dis que c'est un des objectifs prioritaires politiquement pour moi, c'est d'élire un jour quelqu'un qui partage ce constat et qui aura le courage de mener cette réforme. Donc c'est pas en restant les bras croisés qu'on arrivera à court terme, ni même à moyen terme, à supprimer cette élection. Or, pour moi, c'est l'objectif numéro un.
Il faut d'ailleurs préciser que légalement, quel que soit le niveau de participation, l'élection présidentielle pourrait être validée. C'est-à-dire, même s'il y avait, par exemple, imaginons 80% d'abstention, 20% de participation, rien ne dit dans les textes juridiques, et à commencer par, le premier d'entre eux, c'est-à-dire la Constitution, que cette élection serait annulée. Pour autant, vous, Antoine Peillon, vous considérez quoi? Que la légitimité de celui ou celle qui serait élu serait tellement faible qu'on ne pourrait pas faire autrement que de la déclarer comme nulle et non avenue?
Non, je ne pense pas, parce que le coup d'État est permanent. Et exactement comme le disait Sylvain Bourmaud, depuis 1964, conférence de presse du général de Gaulle, on est dans le domaine suprême. Et donc même 10% seulement d'électeurs votants, ce régime se maintiendra coûte que coûte. On est dans un autre ordre, c'est-à-dire que c'est celui des bras croisés ou celui des bras qui se décroisent. Et ce régime monarchique, parce que c'est un régime monarchique qui est peut-être presque parfois plus fort, plus puissant que le régime de Louis XIV, mais peut-être on y reviendra, ne sera défait.
Moi, je veux bien qu'on y revienne tout de suite. Ouais.
Ne sera défait que par
non, parce que c'est dur de dire des choses comme ça.
Que par des révolutions, par des bras qui se décroisent, par des gens qui descendent dans la rue, par des gens qui, même s'ils ne sont que la moitié à s'abstenir, n'accepteront pas qu'une présidente ou un président de la République considère qu'il est le roi.
Alors le parallèle avec le pouvoir absolu qui était celui de Louis XIV, ça fait réagir Anastasia Colosimo et Philippe Magnard. Anastasia
Colosimo. Non mais évidemment que ça fait réagir parce que, franchement j'aimerais bien savoir ce que vous dites quand vous dites ça parce que c'est, passons là-dessus, si vous pourrez répondre à un moment, j'en serais ravie. Pour revenir à votre argument, moi j'ai lu votre livre très attentivement et je vous avoue que j'ai plusieurs problèmes que je vais essayer d'énoncer le plus clairement possible. Le premier problème, c'est que ce que vous proposez avec l'abstention, en fait, c'est une révolution molle. C'est-à-dire qu'en fait, à défaut de faire une véritable révolution, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire de France, c'est-à-dire prendre les armes, faire un putsch, vous proposez en fait de faire la même chose mais en restant à la maison.
On pourrait appeler ça une révolution pacifique, plutôt que molle, non ?
Oui, ou une révolution bourgeoise, je sais pas, enfin c'est à voir. Ensuite, le deuxième problème que je vois, c'est que je n'ai pas réussi à comprendre jusqu'à la fin de votre livre si vous êtes contre la démocratie ou pas. Est-ce que vous êtes, au fond, contre la démocratie représentative ? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, si le vote devient obligatoire à 100%, et donc 100% des personnes en âge de voter et en capacité de voter votent, si elles vont contre vos idéaux, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous serez prêt à l'accepter ? Si ça n'est pas le cas, vous n'êtes pas du tout démocrate, vous êtes pour une dictature écologique ou populaire, enfin bon, mais moi, vous voyez, je j'accuse pas, je demande. Et du coup, la troisième chose, c'est que vous semblez dire qu'il faudrait donc cette assemblée constituante. Alors déjà, c'est quelque chose que propose Mélenchon. Donc pourquoi vous abstenir ? Allez voter pour le candidat qui propose une assemblée constituante. Il le fait, c'est dans son programme. Et surtout, quelle serait l'issue de cette assemblée constituante ? Parce qu'il y a une question que vous ne réglez pas tout à fait et vous restez toujours très ambigu là-dessus. Il y a une très grosse quand même philosophie qui nous précède sur la question justement de la représentativité et entre la démocratie représentative et la démocratie directe, et vous ne tranchez pas vraiment. Et si vous êtes pour la démocratie directe, comment dans un pays comme la France ?
Alors, vu toutes les questions que vous venez de poser, je vais d'abord laisser répondre Antoine Peillon.
Il y a un peu de gêne parce que ça signifie, enfin au moins plus de la moitié de vos questions, signifie que vous n'avez peut-être pas lu complètement le livre. Par exemple, sur la question de la démocratie représentative, parce que le livre est plein, mais d'ailleurs c'est pas la première fois, de tous ces exemples, ces modèles, ces expériences historiques qui sont de l'ordre de la démocratie directe, de la démocratie représentative, de la démocratie délibérative.
Non, vous en parlez, mais vous ne donnez pas de solution.
Mais comment ça, ce sont en elles-mêmes des solutions. À partir du moment où on titre un livre, voter c'est abdiquer, mais qui ne s'arrête pas à ça, qui est ranimons la démocratie. Le vrai sujet central
donc,
est celui de la démocratie.
Et
le procès qui m'est fait là à l'instant, que on se demande si je ne suis pas favorable à une dictature, est un peu fou dans le sens où il suffit et de lire le livre et de savoir ce que font
mais
les
attendez,
citoyens.
La dictature.
Pour savoir, laissons juste répondre peut-être Antoine Peillon.
Pour savoir que ces expériences sont des expériences hyper démocratiques, toutes celles que je préconise, toutes celles que je porte et toutes celles que je pratique, contrairement à beaucoup de donneurs de leçons sur la démocratie par le vote, eh bien, c'est justement de la démocratie participative, directe, délibérative et véritable en quelque sorte.
Mais alors du coup, ma question, voilà, parce que en fait,
vous voyez, moi, mon problème, où est-ce qu'il
se situe ? Mon problème se situe exactement là. C'est-à-dire que soit vous êtes pour, non mais. C'est possible.
Monsieur Manière fait des gestes d'exaspération.
C'est possible. Non, que j'ai simplement, rien compris.
Je trouve que ce serait plus convenable si vous exprimiez votre désaccord sans être désobligeant.
Bon, non, mais ça, c'est pas grave.
Bon, en l'occurrence, vous n'étiez pas à mon détriment. Donc, merci. Vous voyez que
je. Oui. Alors, on écoute à la police. Nous, on s'est
envoyé à la question principale. Parce que, à la fin, vous nous dites, voilà comment doit être le système politique que nous voulons. Le problème du nous, c'est que c'est le système politique que. Mais si, vous dites, ça doit être écologie. Ben, attendez.
Oui, il y a toute une palette de choses qui sont.
Si, ça doit être écologie.
La multiplicité des expériences historiques de démocratie véritable. Oui, le cosmopolitisme,
voilà,
le solidarisme.
Mais si les gens à majorité sont contre l'écologie, le cosmopolitisme, sont pour, par exemple,
liberté,
l'État sécuritaire, comment on fait ? C'est ça ma question. C'est ça que vous ne réglez pas. Est-ce que le peuple a toujours raison ? Et est-ce que votre critique c'est une critique de la démocratie ou est-ce que c'est
le
une critique du peuple ?
Le peuple a toujours raison à la condition qu'il ne tombe pas dans le piège de ce qu'on a appelé la souveraineté populaire, c'est-à-dire justement la dictature de la majorité. Le stalinisme est né d'une très mauvaise lecture de Rousseau. Vous qui êtes philosophe politique, vous devez le savoir. On est justement en train de sortir de ça. C'est-à-dire que la démocratie délibérative, la démocratie horizontale, la démocratie participative, c'est une démocratie qui vise beaucoup plus le consensus que le vote à la majorité et donc une souveraineté populaire qui s'impose au restant de la population. C'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre. Tous les mouvements sociaux actuels, tout ce qui se passe en Amérique latine, en Asie et aujourd'hui chez nous, dans des choses qui sont encore un petit peu informelles, visent à révolutionner les procédures démocratiques.
Mais vous qui...
Donc je ne dicte rien. Je dis que les procédures démocratiques doivent être changées de sorte à ce qu'elles soient véritablement démocratiques.
Alors je voudrais pas que toute l'émission tourne entre un dialogue exclusif entre Anastasia Colosimo et Antoine Peillon. Philippe Manière, on vous a pas beaucoup.
Oui,
entendu.
Quelques remarques parce que le débat est lancé. Je veux pas le faire aller ailleurs que là où il va naturellement.
Le débat n'étant pas. Alors je précise quand même, c'est pas une émission sur le livre d'Antoine Peillon. C'est à partir des réflexions qui sont celles d'Antoine Peillon de réfléchir.
Oui, bien sûr. Vous avez raison. Et on en a parlé assez rapidement. Est-ce que on y reviendra sans doute. Est-ce que l'abstention est dans un sens légitime, défendable dans une démocratie où on peut considérer que si on vous appelle à donner votre avis, il est assez normal que vous le donniez. Bon, c'est une question, on y reviendra sans doute. Mais c'est l'exposé des motifs d'Antoine Peillon qui est intéressant. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a eu cet échange avec Anastasia. C'est quand vous nous dites que vous pensez que, dans un sens, le pouvoir présidentiel aujourd'hui est plus impérieux, plus prégnant, plus contraignant que celui du roi Louis XIV en période d'absolutisme, c'est déraisonnable, pardonnez-moi de vous le dire. Enfin, ça ressortit pas à l'opinion, ce que je suis en train de dire, c'est factuel. Moi, j'ai mille reproches à adresser à la Constitution de 1958, je suis très sensible aux idées qu'on pourrait faire mieux, je vois bien ce qu'on peut reprocher à cet exécutif bicéphale et à toute cette espèce de jeu de théâtre qui tourne autour de l'Élysée, le palais, le machin, tout ça est pas particulièrement satisfaisant, je l'ai dit, écrit, je ne suis pas suspect. Mais enfin, de là à dire qu'on est dans une situation où il y a un président de la République qui exerce un pouvoir avec moins de contre-pouvoir ou plus de capacité de contrainte que le roi Louis XIV, c'est pas sérieux, on peut pas dire ça.
Non, alors maintenant, pas bloqué sur Louis XIV. Parce
non, mais
c'est
pardon, c'est vous qui l'avez évoqué, moi je l'ai pas dit. C'est
oui, on prendra Louis XVI.
Vous conviendrez avec moi que la Constitution de la Ve République...
Napoléon le Petit.
Non, c'est les références historiques, effectivement, de cette tradition soi-disant républicaine, qui sont l'empereur, qui sont avant l'empereur, effectivement le régime monarchique français, Louis XVI, Louis XIV, avant ça Charlemagne, avant ça César. Toute la littérature de philosophie politique, y compris moderne, je pense à Edgar Quinet par exemple, qui n'était pas un fou, fait référence à cette tradition dite césariste.
D'accord.
Ce sont des références qui, en philosophie politique,
tout ça est bien connu. Il y a une tentation césariste, il y a quelque chose de très particulier dans les institutions de la Ve République.
La conférence de presse du général de Gaulle
ça n'est pas l'ancien régime. Alors moi, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure comme étant la raison de votre abstention, je voudrais qu'on y revienne. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et d'ailleurs ça a été votre première observation quand on faisait notre premier tour de table, puisque vous avez à ce moment-là exprimer votre désaccord avec ce que je venais de confesser en vous disant, pourtant en passant, à quel point c'était rare dans ma pratique, mais vous n'avez pas manqué de le pointer, c'est-à-dire qu'il m'était arrivé de ne pas voter pour des raisons de commodité, vous avez immédiatement pointé le fait que c'était mal. Vous êtes motivé par la pureté, et moi c'est ça qui me gêne beaucoup dans votre démonstration, si tant est que ce soit une démonstration, c'est que ce qui vous motive à considérer qu'il est de votre responsabilité de ne pas voter, c'est que vous pensez que ceux qui se présentent à vos suffrages ne sont pas assez purs pour vous, en quelque sorte. Vous disiez vous-même d'ailleurs tout à l'heure, qu'ils étaient corrompus. L'homme est corruptible, l'homme est souvent corrompu, l'homme n'est pas infaillible, et effectivement, c'est une élection d'homme, pas de Dieu, donc vous allez trouver des gens qui ne sont pas irréprochables. La question fondamentale, qui est une question quasiment morale plus que philosophique, c'est est-ce que j'ai le droit de me retirer, de m'abstenir du choix, de m'abstenir du devoir de choix, dans une certaine vision qui n'est pas la vôtre, j'ai bien compris, au seul motif que ces gens-là ne sont pas assez bien pour moi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est, dans le fond, démiurgique, un peu prétentieux, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je vois bien, comme vous, qu'ils ne sont pas terribles. Et je vois bien en quoi je pourrais dire je suis au-dessus de ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement raisonnable de dire comme ils ne sont pas si bien qu'ils devraient, alors je refuse de choisir. Et du coup, je laisse mon pays, je laisse mes concitoyens, je laisse moi-même tomber, subsidiairement, faute que je me sois exprimé, dans un dispositif qui ne sera pas forcément le moins mauvais.
Il y a quelque chose de paradoxal, vous voyez, dans ce que vous dites, je crois. C'est qu'à la fois vous désignez, et je crois vraiment à tort, une sorte de position consumériste qui serait de dire, voilà, ces gens-là, ils me plaisent, je vais au marché, ils sont pas assez beaux, ils sont pas assez roses, ou pas, et donc je me comporte comme un consommateur, je ne prends pas la marchandise. Il y a cette dimension des choses, et malheureusement, c'est vrai qu'il y a dans une partie de l'abstention cette attitude qui est celle d'ailleurs des gens qui n'agissent jamais par ailleurs. Voilà, ils considèrent qu'il y a une offre à laquelle d'ailleurs ils ne participent pas. Ça leur vient pas à l'esprit qu'ils pourraient être dans des partis, choisir eux-mêmes. Enfin, c'est de plus en plus difficile. Les champions qui se proposent à notre choix, c'est pas du tout ça, parce que vous pouvez pas dire ça d'un côté et de dire ensuite il y a une sorte de purisme, presque quelque chose qui est de l'ordre de Saint-Just ou de Robespierre, oui. Parce que c'est ça. Oui, j'entends bien. Et les deux ne peuvent pas s'articuler. Et donc, ça n'est ni l'un ni l'autre. La position de l'abstention là, c'est de dire finalement ce vote ou ces élections, et notamment celle-là, est de l'ordre finalement du dérisoire. Et notre destin politique et ce qui va se passer dans ce pays et les choses que nous avons à construire ensemble passent par d'autres actes, d'autres engagements, d'autres façons de faire. Et que dans l'abstention, il y a tout simplement une protestation pour désigner la fausseté de ce chemin et de dire qu'il y a un autre chemin qui lui est beaucoup plus efficace pour construire la démocratie, l'égalité, la liberté, la fraternité, tout ça.
Sylvain Bourbon,
c'est plutôt ça le sens de ça.
Est-ce qu'on peut effectivement considérer que dans l'abstention, il peut y avoir en tout cas un acte politique qui n'est pas forcément facile à discerner parce qu'on ne sait pas quelles peuvent être les motivations de ceux qui s'abstiennent, mais qu'en tout cas, qu'il y ait une façon.
On le sait un petit peu, Hervé Gardette et Antoine Payon, on le sait un petit peu précisément. Et c'est pour ça que je trouve que parler comme vous l'avez fait, Hervé, tout à l'heure, de partie de l'abstention me paraît un coup de force d'une certaine façon théorique parce qu'il n'y a pas de partie de l'abstention. Ce que montre la sociologie électorale des abstentionnistes, en particulier le très beau livre de Céline Braconnier et de Jean-Yves Dormagin, mais aussi avant ça, les travaux de Daniel Gaxi, par exemple. Ce que montrent toutes ces productions de sociologie électorale, c'est que l'abstention, d'abord, est un phénomène qui va croissant depuis 40 ans. Ça ne concerne pas que la France, ça concerne toutes les démocraties représentatives. Et que, d'autre part, le déterminant le plus fort social de l'abstention, c'est évidemment le niveau de diplôme, ce qui est, soit dit en passant, le même déterminant social que pour le vote Front National. Mais il y a un déterminant extrêmement important de l'abstention, c'est l'intégration sociale. Par exemple, le déterminant le plus fort, c'est le fait de vivre en couple. Si on vit en couple, on vote. Si on est célibataire, on a beaucoup plus tendance à ne pas voter. Ça, c'est des travaux très récents, pointus, de sociologie électorale qui sont intéressants parce que ça veut dire que c'est pas forcément un déterminant, d'ailleurs, c'est une causalité. C'est-à-dire que le vote est aussi quelque chose qui procède de l'intégration sociale. Donc, ne plus voter, c'est aussi encourager à ne plus voter, c'est aussi encourager une forme de désocialisation d'un certain nombre de citoyens. Alors, évidemment, on a accordé beaucoup trop d'importance au vote. On a eu tendance à réduire la démocratie aux élections. J'ai lu avec grand intérêt et en partageant toutes ces analyses, les travaux depuis des années de Pierre Rosanvallon qui ne cesse d'alerter là-dessus en nous rappelant que la démocratie, il ne faut pas confondre la démocratie avec les élections. Mais ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, sous prétexte que les élections seraient négligeables, ce que je ne crois pas du tout, je crois même très dangereux de dire une chose pareille, sous prétexte que les élections ne serviraient à rien, il faudrait les abandonner. Mais alors à ce compte-là, je veux dire, la plupart des grèves qui sont faites ne servent à rien. Donc il faudrait faire la grève de la grève. On est dans l'absurde. Et donc on est aujourd'hui dans une situation, pour parler de Pierre Rosanvallon, qui donnait un excellent entretien au journal Le Monde hier soir, et qui pointait que nous avons dans cette élection présidentielle trois candidats, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Madame Le Pen, qui ne sont pas des candidats dans l'ordre de la représentation politique. Ils disaient que ce sont des gens qui procèdent et qui appellent l'identification politique. Donc ils mettent en péril la démocratie représentative à bien des égards. Et donc appeler à ne pas voter, alors même que le système démocratique est menacé par la présence forte de trois candidats de ce type-là, me paraît extrêmement grave. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir ici sur...
Sauf que l'abstention, les études le montrent aussi, ne favorise pas particulièrement le Front National.
Mais bien ça sûr, aussi, les études ne le montrent pas, ça c'est faux. Je voudrais juste terminer là-dessus, parce que les études, en l'occurrence, c'est juste le directeur d'un institut de sondage dans le livre d'Antoine Payon. Les études des gens sérieux qui travaillent sur la sociologie électorale vous montrent au contraire, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là, quand on fait les sondages, le seul panel un peu sérieux, c'est celui qui est fait par le Cevipof sur 20 000 personnes. Qu'est-ce qu'on voit? Le seul vote qui est un peu cristallisé, un peu solide, pour lequel les gens sont sûrs de faire ce qu'ils vont faire probablement au premier tour, c'est le vote du Front National. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est peut-être l'une des chances pour ne pas voir le Front National remporter cette élection, c'est que on a peut-être, d'une certaine façon, on pense qu'il n'a pas forcément de réserve de voix parce que ses électeurs sont déjà très mobilisés. Très, très mobilisés. Donc ce ne sont pas des abstentionnistes. C'est bien toute la différence. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment un risque incroyable aujourd'hui. Je veux dire au fond, voter, mais... c'est abdiquer, faire le lit du FN comme on le reproche à Monsieur Payon. Dire voter c'est abdiquer aujourd'hui, au mois de mars 2017 en France, c'est carrément donner les clés du palais de l'Élysée à Marine Le Pen.
C'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Je voudrais juste, parce que je pensais pas que la discussion tournerait de cette manière-là, sinon peut-être j'aurais réfléchi autrement. Mais vous êtes pas, en tout cas, Antoine Payon est pas le seul à évoquer cette.
Il y a des rectifications à faire sur les faits.
Possibilité-là. Je vais juste redonner la parole à Philippe Manière.
Très brièvement sur l'abstention.
En tout cas, juste pour dire qu'il y a un certain nombre d'ouvrages récemment qui ont été publiés dans des maisons d'édition extrêmement sérieuses, avec des gens très sérieux. Je pense par exemple à un historien comme David Van Reybrouck, qui tiennent un discours assez proche, en tout cas sur le fait que non seulement il faut sortir de cette centralité du vote, mais qu'on peut aussi se passer de cette étape. Voilà, ce n'est pas une prise de position, mais c'est juste une petite précision.
Brièvement, sur l'abstention, Pierre, j'aimerais bien qu'on vienne quand même sur les formes alternatives de démocratie qu'Antoine Payon appelle de ses voeux, et moi je ne suis pas certain d'avoir absolument tout compris, mais il me semble qu'il a plutôt une préférence pour Nuit Debout et les zadistes pacifiques, hein, si j'ai bien compris, par rapport au système représentatif habituel. Je trouve que ça serait intéressant qu'on en parle. Mais sur l'abstention, il y a la vision macro que vient d'évoquer Sylvain, sur laquelle on reviendra sûrement, et là, le Cevipof, les études, etc., bon, on peut en parler, mais il y a la vision micro qui a été évoquée au tout début, quand vous avez fait le petit son au tout début de notre émission. Si quelqu'un ne vote pas, et moi je suis ni pour ni contre, le Front National est un parti qui est légal, donc il n'y a pas de raison de militer contre le fait que quelqu'un vote pour le Front National. Alors, je veux dire, pardon, si on est républicain, voilà, il y a des gens, ils ont le droit de voter, le parti est là, et donc ils ont le droit de voter. Mais c'est un fait que si quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voter pour le Front National, qui est même décidé à aller voter généralement pour un autre parti, décide de s'abstenir, alors ça favorise le Front National pour des raisons arithmétiques évidentes sur lesquelles, enfin, encore une fois, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Ouais. Donc il y a la question
arithmétique est dans l'autre sens.
Il y a la question macro, hein, qu'on a évoquée, mais il y a le fait que si vous ou moi qui votons toujours A, nous n'y allons pas, eh ben le camp B va bénéficier du fait qu'il y a moins de voix A qui se sont exprimées. Enfin, c'est pas tellement contestable, me semble-t-il.
Si, alors, complètement. Ah bah alors, c'est donc, que depuis 2002. Dans tous les scrutins qui sont étudiés, à chaque fois qu'il y a abstention forte...
Mais vous revenez au macro, moi je vous parle du micro.
Restons sur le macro, à part votre cas personnel, le macro nous concerne tous.
Je ne parle pas de mon cas personnel, je parle de n'importe quel électeur qui ne vote pas pour le Front National. Si cet électeur ne va pas voter, moi ou pas moi, il fait indirectement
2002,
monter le score relatif du Front National.
Toutes les statistiques sur les scrutins montrent qu'à chaque fois qu'il y a abstention forte, il y a très faible taux pour le Front National. Donc ça veut dire que ceux qui s'abstiennent et qui ont des motifs parfois proches de ceux qui votent pour le Front National, parce que c'est la désespérance sociale, c'est le déclassement, eh bien, Quand ils choisissent l'abstention, c'est qu'ils n'ont pas choisi le Front National. Tous les autres électeurs des autres partis sont souvent beaucoup plus mobilisés. Il y a quelque chose qui n'est pas exact dans ce que disait Sylvain Bourmeau tout à l'heure, c'est sur le motif de l'abstention. Depuis 2002 aussi, et il n'a pas cité, c'est étrange, parce que Anne Muxel est considérée comme la sociologue, et maintenant depuis une quinzaine d'années.
Moi, personnellement, je préfère les travaux de Céline Braconnier et de Jean-Yves Dormagen. Mais enfin bon,
non, qui n'ont travaillé que sur
les banlieues. Ils n'ont pas travaillé que sur la cité des cosmonautes à Saint-Denis. C'est l'un de leurs terrains ethnographiques, mais ils en ont fait bien d'autres, notamment lors des municipales avec une équipe
de 20
Anne
Muxel montre que, par exemple, dès 2002, les deux tiers des abstentionnistes étaient ce qu'on appelle des abstentionnistes décidés, politiques, dans le jeu. C'est ces terminologies. Soit ceux qui sont, par indifférence, hors du jeu. Et depuis 2002, on a cette inversion. C'est-à-dire que les abstentionnistes sont aujourd'hui des gens plus politisés, en moyenne, que ceux qui ne s'abstiennent pas.
C'est un fait sociologique.
C'est totalement faux.
Anne Muxel, elle parle d'abstention intermittente. Que les abstentionnistes soient plus politisés que ceux qui participent est un fait sociologiquement totalement faux.
Cette phrase pour y croire.
C'est complètement faux. Vous pouvez pas dire que
c'est un fait. C'est un fait.
Alors je vais citer si vous voulez bien Anne Muxel.
Ça me plaît beaucoup. Ça vous choque. Comme ça, a priori.
Je vais citer si vous voulez bien.
Je trouve ça curieux.
On s'écoute un petit peu et on m'écoute aussi un petit peu. Je vais citer.
Je n'ai rien.
Je vais citer. Si vous le voulez bien.
Si vous voulez lire d'ailleurs en diagonale.
Non, non, mais
diagonale.
Comment vous expliquez ça?
Je vais citer, si vous le voulez bien, Anne Muxel. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que là, on est un peu entre initiés, mais Anne Muxel, elle est directrice de recherche au CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po.
Donc on a
elle parle d'une abstention, d'abstentionniste intermittent. Et à propos de cette abstention intermittente, je ne fais que la citer, elle dit, on peut aussi interpréter cette abstention, c'est-à-dire, c'est pas une interprétation exclusive, mais c'est aussi une façon d'interpréter cette abstention comme un signe de vitalité politique et démocratique. Car le citoyen évalue les enjeux, s'il souhaite se déplacer, s'investir, s'il a envie d'envoyer un message par une abstention sanction, cela peut être le signe d'une certaine maîtrise sur le plan des usages démocratiques. Ça ne veut pas dire
c'est un
que
peu
tous
le consumérisme
ceux qui
que des.
Mais bien
que
sûr,
des
Hervé, mais cette aussi. Abstention intermittente, elle est une goutte d'eau dans le phénomène massif d'apathie politique qui est traduit par l'abstention. Toutes les études de sociologie électorale le montrent. C'est vous qui avez complètement tort sur ce point.
Sur des sondages profonds, sur des dizaines de milliers de personnes, elle établit qu'en 2002, c'était deux tiers des abstentionnistes qui étaient des abstentionnistes dits politiques. Pourquoi, M. Manière, c'est important.
On sait bien, pourquoi politique,
pourquoi y a-t-il éventuellement une sorte de paradoxe.
Stratège chez tous les
électeurs.
C'est
que ces personnes qui s'abstiennent dans ces circonstances, et c'est intermittent. Par exemple, on sait très bien que sur les municipales, ils sont beaucoup plus électeurs que sur la présidentielle. Eh bien, c'est parce que ce sont souvent des gens qui sont engagés dans des associations, dans des syndicats, dans la vie civique, ce qu'on appelle la vie civique en général, et qu'ils disent eux-mêmes, parce qu'on les sonde, donc ils ont la possibilité d'exprimer leurs raisons, ils disent que parce qu'ils ont cet engagement et qu'ils y trouvent un sens, parce qu'il y a de la réponse, il y a du résultat, ils considèrent qu'aller voter à cette ou cette élection est non seulement vain, mais parfois contradictoire avec leur action.
Anastasia Colosimo, est-ce qu'il vous paraît, vous, incompatible d'être à la fois politisé et abstentionniste?
Non, pas du tout. Ça me paraît pas du tout incompatible. On peut être tout à fait très politisé et abstentionniste. Je pense que on peut pas dire que les personnes les plus politisées sont parmi les abstentionnistes, à moins d'un contresens tellement phénoménal que nos cerveaux en exploseraient. Mais ensuite, il y a autre chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que du coup sur cette question du comment on va faire si on sort donc de si l'abstention gagne finalement, vous dites c'est des personnes qui sont engagées dans des associations, qui sont engagées dans les syndicats. On est le pays où il y a le moins de personnes syndiquées en Europe. Le tissu associatif est complètement vraiment mais démuni et complètement
il est très largement filial de l'État, il y a énormément
de bénévoles,
il est lâché par les pouvoirs publics, voilà. mais il n'y a jamais eu autant de gens, regardez le nombre de personnes engagées dans les associations, c'est un nombre qui monte.
Oui, mais c'est pas des associations à la top ville, c'est des membres de l'État, elles vivent très largement de subventions, les associations en France.
Pas seulement,
c'est à la mort dans l'âme, j'aimerais beaucoup qu'elles fussent plus toniques sans argent public.
Vous avez raison, il y a beaucoup de parapublics, mais ça veut dire que il y a quand même un motif qui est celui du tissu social. social, qui est celui de l'action, disons, civique, malgré des financements qui souvent sont de moins en moins d'ailleurs.
Mais il n'y a pas d'autres échelons
C'est en pleine croissance, excusez-moi.
Mais alors, à partir
sur le terrain,
ça
fait partie de mon métier de faire la tournée de France en permanence sur ce que nous, on appelle à la Croix les initiatives.
Non, mais j'ai compris que je ne gagnerai aucune légitimité dans ce débat. Néanmoins, du coup, j'ai quand même une question pour vous.
Aussi vivace.
J'ai quand même une question pour vous. En fait, tout ce que vous proposez, c'est le programme de Mélenchon. Alors pourquoi vous ne votez pas Mélenchon ?
Désolé, ce n'est
pas... assemblée constituante. Mélenchon, il dit, je vais être élu, je vais faire une assemblée constituante. Il est pour l'écologie, il est pour la liberté, la fraternité.
Anastasia, on peut être d'accord sur ces propositions, là, avec Mélenchon, et ne pas avoir envie de voter Mélenchon, croyez-moi.
Mélenchon.
Mais je voudrais juste citer
quelqu'un qui, comme les autres, dit je tout le temps.
Je vais être très
bref. Il y a une contradiction interne formidable, quand même, avec le projet de constituante. Pardon.
Là-dessus, on est d'accord. Je voudrais citer un chiffre, Hervé. C'est l'excellent Frédéric Carbone qui, sur Twitter, a attiré mon attention il y a quelques semaines.
Qui est le correspondant de Radio France à Washington.
Voilà, et ancien journaliste de la rédaction de France Culture. Et il a attiré mon attention sur une chose incroyable. Il tweetait que, au fond, Mickey Mouse avait permis à Donald Trump de remporter l'élection américaine. Vous savez combien de bulletins nuls, alors on ne parle pas d'abstentionnistes, là on parle de bulletins nuls, ont été déposés dans les urnes de l'État de Floride. Des bulletins sur lesquels le nom de Mickey Mouse était le plus fréquent. Mais on y trouvait aussi Barack Obama, ou on y trouvait tout un tas de gens qui n'étaient pas candidats, ce qui faisait évidemment des bulletins nuls. On y trouvait Bernie Sanders, on y trouvait beaucoup de choses. Mais Mickey Mouse était de très loin. 161 000 bulletins nuls ont été déposés dans l'État de Floride. Vous savez la conséquence de ces 161 000 bulletins nuls ? Le fait que Donald Trump ait remporté cette État. Et vous savez la conséquence du fait que Trump ait remporté cet État, sa victoire à l'élection présidentielle.
Mais il aurait fallu quoi alors que ces bulletins nuls se portent sur Hillary Clinton ? Mais c'est peut-être aussi une forme de défiance autant à l'égard de Donald Trump que d'Hillary Clinton,
C'est un peu totalitaire.
C'est possible. Voilà. C'est possible, mais en tous les cas,
un bulletin blanc ou nul, c'est pas tout à fait la même chose que l'abstention. Je pense que dans un sens, vous avez une cohérence intellectuelle pour vous quand vous dites, moi, je vais même pas voter. Moi, j'ai ma cohérence intellectuelle en disant, je pense que c'est mon devoir. En revanche, j'ai pas une offre qui me convient, donc j'exprime un bulletin blanc. C'est deux visions différentes.
C'est un exemple que je donnais avec en perspective le deuxième tour de la prochaine élection présidentielle française.
Parce que quelque part dans l'exemple que vous donnez, il y a une sorte de comble du spectacle de l'élection, vous voyez, et de la faillite de l'élection. Allez, ces bulletins nuls qui sont, y compris clownesques, disons-le, eh bien, sont un symptôme supplémentaire de la fin de ce système. L'abstention, elle est d'un autre ordre. Elle est d'invalider l'acte lui-même de vote et l'organisation de ces élections. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est juste. Moi, je vise l'élection présidentielle telle que formatée par la Ve République. Les législatives, c'est tout à fait autre chose. Les municipales, n'en parlons même pas. C'est pas l'élection, moi, que je vise. C'est là, en l'occurrence, quelque chose que je tente, sur lequel je tente de plutôt lever un débat que de faire un coup d'État. Bien sûr que je n'ai pas l'illusion ou la croyance que en avril et mai surtout, nous aurons basculé la République grâce à une majorité d'abstentionnistes.
Non, mais c'est la République qui risque de basculer si
oui,
un certain nombre de gens
mais
font comme
que
vous.
Ça, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'abstention?
Non, mais vous dites, vous parlez ironiquement des eaux brunes en 2002. Moi, ça me fait pas trop rire, moi, personnellement, Monsieur Payon.
La République a déjà basculé. Si vous n'êtes pas capable de prendre acte du fait que nous avons déjà une République qui est cassée, une République qui est violente, peut-être pas pour vous.
Les ZAD aussi, c'est violent. Nuit debout aussi, c'est violent.
Ils ont des débats sur la
non-violence.
Mais
ce n'est pas ça, c'est que
les
ZADistes
et les Nuit debout sont minoritaires dans ce pays. Je suis désolée.
Mais ça n'est pas le modèle absolu que je propose. Je dis qu'il y a dans ces lieux des commencements de débats sur des formes. Et notamment la question fondamentale de la violence et de la non-violence. Parce que nous sommes à nouveau dans un moment d'histoire où cette question se pose déjà et va se poser. Et c'est notre responsabilité commune de débattre de la nécessité ou non de la violence, ou de la nécessité plutôt de la non-violence.
Je pense qu'il est nécessaire de ne pas ouvrir la possibilité qu'on en parle.
Mais
je suggère que le débat soit plus pacifique.
S'il vous plaît, je renvoie à la lecture du livre d'Antoine Payon. Voter, c'est abdiquer, qui vient d'être publié aux éditions Don Quichotte. Alors, je n'imaginais pas qu'en organisant une discussion autour de l'abstention, ça provoquerait une telle passion.
En même temps, voilà, c'est aux éditions Don Quichotte. Tel,
aux éditions Don Quichotte, mais qui sont d'excellentes éditions,
surtout,
par ailleurs. Merci en tout cas à tous les quatre d'y avoir participé.
Je défends effectivement le consensus.
On se retrouve lundi.
Le palabre de consensus.
On se retrouve lundi à 18h20 pour De Grain à Moudre avec... La question suivante, la France est-elle une zone de conflit comme les autres? Bah, c'est une zone de conflit, en tout cas, ça on l'a prouvé ce soir. Ce sera une discussion entre Anne Niva et Patrick de Saint-Exupéry, reporters de guerre qui se sont intéressés au terrain social français.